Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre des Montpelliéraines et des Montpelliérains.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.
Amis auditeurs, amis auditrices, bonjour. Comment présenter mon invité d'aujourd'hui pour cette nouvelle émission « Racontez-nous votre Montpellier ». Il s'appelle Hamza Arab, il préside entre autres le club Montpellier Méditerranée Futsal. Il nous en parlera. Il est enseignant vacataire à l'université de Montpellier et son antenne de Biterroise. Pendant une dizaine d'années, il a été avec d'autres très actifs dans l'association Justice pour le Petit Bar, son quartier. Avec Tarek Ouattari, il a conçu et organisé la Caravane des quartiers, espace d'échange et de conseil, avec le soutien de la Fondation Abbé Pierre, qu'on n'attendait peut-être pas nécessairement là. Et elle a fait étape, cette caravane, à Montpellier, et aussi à Toulouse, Lyon ou Marseille. Militant associatif, c'est peut-être la manière de bien le présenter, de l'annoncer, pour nous parler notamment des quartiers, ce qu'on appelle les quartiers, comme on dit, et de la jeunesse. Hamza Arab, merci.
Alors, merci à vous pour l'invitation.
Et volontiers. Alors, de même façon, vous êtes enraciné dans notre ville. Racontez-nous votre Montpellier. D'abord, peut-être, quels sont les lieux, pas nécessairement qui figurent sur les cartes postales ou pas, que vous aimez particulièrement à Montpellier, dont vous parlez à vos amis, par exemple, quand ils sont de passage ici.
Généralement, je les amène dans certains quartiers populaires de Montpellier, où il y a une certaine convivialité, comme ça peut être le cas au quartier des Cévennes, à la Paillade. Je ne prononce pas le Petit Bar parce que depuis la rénovation urbaine, des lieux de vie ont été retirés dans des cafés conviviaux, etc.
Oui. On pourra en parler de ça.
Voilà. Du coup, généralement, c'est dans ces endroits où je les amène pour boire un thé, discuter, voir cette chaleur humaine qu'il y a autour du quartier.
Donc vous aimez cette ville, en tout cas sur certains de ses aspects. Est-ce qu'en revanche, il y a des choses qui vous déplaisent, dans lesquelles vous vous retrouvez moins, donc avec qui vous êtes en différence ou en distance?
On a ce fameux problème en ce moment des embouteillages qui pose problème même pas à tout le monde. En espérant que dans quelques années, ce sera un mal pour un bien. C'est ce que tout le monde souhaite. Mais sinon, dehors de ça, après, c'est des problèmes qu'il y a dans toutes les villes de France. C'est la société qui est en train de changer, parfois en bien, parfois en pas très bien. Donc voilà, après, je n'ai pas des exemples très précis, mais généralement, c'est une ville que je ne quitterai jamais.
C'est ma ville. Alors, vous avez un peu voyagé, j'imagine, pour la caravane dont on a parlé, mais pas seulement. Qu'est-ce qui caractérise Montpellier? Quand vous en parlez à des amis ou des parents qui viennent à Montpellier sans connaître, comment vous racontez la ville?
C'est un côté populaire.
Ouais.
On raconte un peu ce côté populaire. C'est surtout moi, je parle plus des quartiers populaires plutôt que du centre-ville de la place de la Comédie, que tout le monde connaît en fait.
Bien sûr.
Place de la Comédie, les plages, le soleil, c'est des choses, à dire, basiques que tout le monde connaît à travers la France. Mais ce côté familial un peu qu'il y a dans des différents endroits de Montpellier, peut-être, je mets plus en valeur que le reste. Ouais.
D'accord. On va en parler dans les minutes qui viennent. Alors précisément, on les appelle les quartiers populaires, vous l'avez dit, les quartiers en difficulté, ou encore une dénomination technocratique, les quartiers de la politique de la ville. Alors ville avec un petit V, parce que ce n'est pas un dispositif propre à la commune, mais depuis de longues années, un ensemble de politiques publiques conduites par l'État. Alors pour vous, les quartiers, qu'est-ce? Vos quartiers, les quartiers dont vous parlez, vous êtes un de ceux qui les incarnez ou qui les promouvez, qu'est-ce que c'est pour vous?
Moi, pour moi, les quartiers si on veut parler de Montpellier ou de quartier QPV, moi, j'aime pas ce terme déjà parce qu'on nous catégorise, on nous met dans une case à part. On nous a fait genre un ministère pour nous, donc une politique à part, alors que les habitants des quartiers, tout ce qu'ils veulent, c'est le droit commun, pas plus. Ils veulent pas plus que les autres, mais ils veulent pas moins que les autres. Et je dirais, malheureusement, on a mis en place cette politique publique à l'égard des quartiers dans laquelle on est censé être prioritaire et dans laquelle on a créé un ministère, parce qu'il faut reprendre un peu l'historique de la création de ce ministère. C'est parce qu'on a estimé, parce qu'avant, dans les années 80, c'était des dispositifs politiques de la ville. Et dans les années 90, suite à la mort de Thomas Claudio sur Vanvelin et les émeutes qui ont suivi par la suite, on a estimé, on vient de se rendre compte que des jeunes des quartiers vivaient un certain malaise et qu'il fallait donner une réponse politique à ce problème-là. On a fait un colloque de 3 jours à Bron, à l'époque.
À banlieue de Lyon, donc.
Exactement. Et on sort de là, on décide de créer un ministère pour les quartiers. Et de là, donc, dans lequel ce ministère-là arrive en appui du droit commun. C'est-à-dire qu'on a comme tout le monde, mais comme on a plus de difficultés, on veut plus de discrimination que les autres, donc la politique de la ville arrive en plus. Mais malheureusement, ce que j'ai pu constater avec les 15-17 années d'engagement que j'ai pu avoir à mon niveau, c'est que cette politique, elle profite à tout le monde, sauf aux concernés directement. Et c'est la raison pour laquelle nous, on s'est mobilisés, on s'est battus pour faire en sorte voilà, que cette politique-là, elle profite au quartier. Parce que quand on a la politique de la ville, on nous met de côté sur le droit commun, mais sauf que... Enfin bref, c'est un long débat, une demi-heure, oui. Ça ne suffit pas en vérité. Non, donc j'évoque ça, on va essayer de...
Donc
c'est un terme que je n'aime pas trop. Voilà. C'est... je dirais, moi, que déjà, les gens des quartiers n'aiment pas être perçus comme des gens à part.
C'est ça. Déjà, et donc, du coup, l'idée qu'on pouvait considérer comme positive, attaquant le sujet jusqu'alors, si ce n'est dans le détail, qu'il fallait faire un effort particulier, mettre en place des soutiens particuliers, favoriser, par exemple, l'action des entreprises avec des dispositifs d'exonération fiscale.
Les zones franches.
Les zones franches, entre autres choses. Et,
dans laquelle on n'emploie que les femmes de ménage.
Voilà. Et donc, du coup, c'est un ratage, ou en tout cas, l'intention pouvait être bonne, mais le résultat était insatisfaisant, voire négatif, c'est ce que vous dites.
Ouais, insatisfaisant. Après, il y a des endroits où on va avoir peut-être des maires ou des préfets ou des gens qui vont avoir un peu plus de volonté, ou des ministres qui vont mettre un peu plus de volonté, ils vont plus se battre parce que ce n'est pas évident. Il ne suffit pas qu'on va nommer un nouveau ministre de la ville et on croit que... Il a tout compris parce qu'il sait, il y a certains ministres, on peut évoquer le cas de Klein qui est le maire de Clichy-sous-Bois. Oui. On sait très bien qu'il connaît la problématique, tout ça, mais on sait très bien qu'il a été nommé ministre de la ville. Moi, j'ai déjà échangé plusieurs fois avec lui, j'étais en contact avec lui, etc. Mais on sait très bien qu'il ne va pas arriver d'une baguette magique, qu'il va changer la manière de faire. Et ça, malheureusement, c'est dans tous les cas, et c'est une des raisons aussi qui fait que dans les quartiers, souvent, Bon, parce qu'ils ont tellement été trahis deux fois que les gens, ils n'y croient plus. Mais en même temps, on sait très bien ce qu'il faut prendre conscience. Plus les années passent, plus on se rend compte qu'il ne suffit pas d'avoir quelqu'un qui est élu et qui a compris notre problème et que le problème va se régler. C'est beaucoup plus compliqué que ça.
C'est ça.
C'est vraiment sur du long terme. Et c'est une volonté qui doit venir de la part de tout le monde, y compris des habitants eux-mêmes.
C'est-à-dire, oui, c'est ça. C'est-à-dire les habitants, les acteurs locaux, associations, entreprises.
Tout le monde doit jouer le jeu.
Et pas seulement un ministre dans son bureau à Paris qui appuierait sur un bouton pour faire en sorte que les choses se règlent.
Exactement. Et tout ne se règle pas qu'à coup de crédit, à coup de budget, à coup de... c'est pas qu'une question d'argent,
Une question de considération,
d'écoute. Considération d'abord, d'écoute, de donner de la considération à ses habitants et non pas les traiter de la manière qu'ils sont traités politiquement, un certain paternalisme qui est très présent. En fait, le problème qu'on a dans les quartiers, c'est qu'on considère les quartiers comme soit des couloirs humanitaires, soit des sanctuaires sécuritaires.
D'accord. Alors,
et c'est ça le problème.
On voit le parallèle de l'image des couleurs militaires. Pardon,
cette forme-là. Moi, je prends le cas du Petit Bar, par exemple. Il y a énormément d'énergie toutes ces années où des jeunes, par exemple, qui veulent un local, s'organiser, faire des actions. Il y a des associations qui demandent de locaux, etc. On a pratiquement une dizaine de locaux faits pour les Restos du Cœur. C'est à croire que c'est que ça. Et mettre les habitants de ces quartiers-là dans cette politique, on ne va pas dire d'assistanat, mais de leur faire croire que voilà, c'est des gens qui sont là que pour attendre qu'on leur tende un bout de pain, c'est problématique. De la même manière qu'envoyer les CRS à des moments, on dit voilà, la réponse c'est ça. Et nous, c'est problématique. C'est-à-dire que quand on va envoyer la police dans les quartiers, c'est pour faire de la répression, mais quand on va les envoyer en centre-ville, c'est pour sécuriser le centre-ville. Donc tout ça, c'est des sentiments, c'est de mauvais sentiments au quotidien qui alimentent... un certain état d'esprit qui n'est pas...
De l'insatisfaction, voire de la colère. Mais est-ce qu'il s'agit carrément de relégation ? On peut parler d'une relégation spatiale dans les quartiers. Hein. Les quartiers pauvres et les quartiers aisés, pour faire ça. C'est un peu caricatural, mais pour être bien compris. Est-ce que c'est ça, en définitive, d'être... que ces habitants perçoivent comme étant mis de côté ou pas complètement considérés ? Quel que soit, je dirais, leur statut.
Ouais, après, on ne peut pas dire... En fait, ça dépend. Ça dépend de la politique qui est menée, des élus en place, de la préfecture qui est en place. Tout ça, ça dépend. Et parmi la préfecture, parmi la ville, parmi tous ces gens, il y a des individus. Donc, il y en a qui vont donner de la considération, d'autres beaucoup moins, d'autres qui vont vouloir les utiliser. Donc, on ne peut pas dire c'est comme ça. Oui. C'est comme ça et pas comme ça. On ne peut pas dire ils sont mauvais, nous on est les gentils, pour qui on ne fait rien, on nous met de côté et tomber dans la posture victimaire quotidienne qui n'est pas bonne non plus. Il y a une responsabilité qui est collective et tant qu'on ne prend pas conscience qu'en fait il s'agit de l'avenir de nos enfants, il s'agit de la société plus tard, qu'on est en train de bâtir et construire une société, on essaie qu'elle soit plus juste pour que tout le monde soit tiré vers le haut. Si tout le monde ne prend pas conscience de ça et d'enlever les parasites, parce que des parasites, il y en a partout, et parmi les quartiers, et parmi les élus, et parmi les services de l'État ou de la mairie, etc. Donc, c'est un travail de longue haleine qu'il y a à faire, et aussi de la part des habitants de ces quartiers qui doivent aussi se prendre en main, qui doivent aussi s'organiser, qui doivent aussi s'impliquer davantage dans la politique de leur ville. Pour ne pas dire, je vais faire un jeu de mots avec la politique de la ville, mais c'est important. Donc, en vérité, pareil, c'est comme tout à l'heure, c'est une discussion qui... C'est un sujet de discussion qui peut prendre une heure.
Bien sûr. Alors, ceci dit, bon, on entend bien. Ce qui est frappant, c'est que vous n'avez pas une vue simpliste, manichéenne, hein. Les bons, les méchants, le noir et le blanc. Il y a une complexité.
Il y a une réalité. Voilà, il y a une réalité. Voilà. Il y a un réel constat qui est... Parfois, ce n'est même pas une question de mauvaise volonté de la part des personnes, des gens en place. Ce n'est pas ça. C'est que ce qu'on leur remonte, et les personnes, c'est là où on parlait tout à l'heure du modèle associatif, par exemple, parce qu'aujourd'hui, on donne beaucoup plus de crédit aux associations qu'aux habitants, j'ai l'impression. Alors que les associations ne sont pas forcément là pour les habitants.
Ça dépend de leur manière de faire, de leurs activités, de leur éthique même.
Éthique. Est-ce que c'est quoi quand on crée une association, à la base déjà, c'est pour apporter un plus dans la vie du quartier. Si on crée une association parce que je vais être dans l'agenda du maire ou de l'élu, etc., ou je veux créer une association parce que je vais me faire un salaire et que je ne fais rien derrière, etc., etc., c'est un problème.
Bien sûr.
C'est un problème. Donc, pour ça que c'est pareil.
Alors... On a bardé de front.
Moi, j'essaye de me censurer un peu parce que sinon, on va...
Il ne s'agit pas de censurer, il s'agit d'être... Alors, on a abordé de front. Moi, j'ai bien sûr prévu de l'aborder. On va y revenir, mais on va aborder les choses d'une manière...
Non, mais n'hésitez pas à me couper, car la question, elle est après.
Alors, le futsal, j'ai dit que vous avez été à l'origine de ce club qui a fait un grand et long parcours depuis. Alors, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas ce sport... Qu'est-ce que c'est que le futsal et en quoi ça se distingue du football que tout le monde connaît?
Le futsal, ça a été fondé par Carlos Seriani, qui était un prof de sport. Et quand il a immigré en Uruguay, c'est de là qu'il a commencé à... Dans un contexte bien particulier, il était dans des quartiers pauvres et il s'est rendu compte qu'il y a énormément de jeunesse qui était livrée à elle-même. Qui était un peu, je ne sais pas s'il était prêtre, curé ou je ne sais pas, mais en tout cas, il était chrétien. Et il s'est donné l'idée de... Il n'y avait pas ces terrains de foot, donc de créer...
Il n'y a pas d'équipement dans ces quartiers.
Voilà. Du coup, il fallait plusieurs petits terrains. Donc, ils ont réduit le terrain et c'est là qu'il a commencé à réfléchir à une nouvelle discipline, donc dans les années 30, une nouvelle discipline qui était un mélange des règles de basket, de water polo, de football... C'est du football, mais avec des règles différentes, donc basket, comme les blocs, tout ce qu'il y a. Et de là, donc, c'est devenu une discipline. C'est 5 joueurs sur le terrain, 4 joueurs et un gardien, dans la limite de 12 joueurs sur la feuille de match, avec des changements à n'importe quel moment, avec des touches au pied, etc. C'est ce qui différencie, que ça va très vite, technique, tactique.
Et des matchs plus courts que le football, c'est ça?
C'est 2 fois 20 minutes, temps arrêté. Donc, ce qui équivaut à peu près à 35 minutes.
Donc, une pratique sportive plus facile. Bon, ça peut se faire sur un terre plein, sur un terrain de basket qu'on adapte, j'imagine.
Terrain de hand. Voilà.
Et donc, du coup, une pratique sportive qui est plus facile, là où il n'y a pas de grands équipements comme on peut en connaître pour les sports type rugby ou football, c'est ça, hein?
C'est ça. Par exemple, si on prend le cas de l'Espagne, le premier sport, c'est le futsal.
Ah oui, un nombre de licenciés.
En Portugal, c'est pareil. Au Brésil, c'est pareil. À savoir aussi que les meilleurs joueurs du monde sont issus de la formation futsal.
D'accord.
De l'histoire.
Voilà. Alors ça permet, ça donne des perspectives.
Non, parce qu'on réduit souvent le futsal à du foot en salle. vu il y a une vingtaine d'années.
Oui, comme son nom peut l'indiquer. Voilà. Oui.
AD5. Oui,
c'est ça. Donc,
qu'on ne connaît pas.
D'accord. Alors, le club de Montpellier, donc, en quoi, je dirais, cette pratique a été autre chose que pas seulement du sport, mais aussi un outil d'émancipation, un outil peut-être de liberté ou de progrès pour les jeunes qui pratiquent sport. Parce que c'est ça, je pense, le fil conducteur de l'investissement que vous avez fait, l'engagement avec d'autres, pas que vous, bien entendu, dans le futsal à Montpellier, ça participait de ça, quoi.
Bien sûr. Nous, une des fiertés du club du Montpellier Méditerranée Futsal, pour lequel j'ai été cofondateur, j'en suis pas le président actuellement, je l'ai été, et je coordonne toutes les actions, mais je suis... ce n'est pas moi le président officiellement aujourd'hui. Je m'étais perdu dans ce que j'allais dire.
Oui, non, en gros, qu'est-ce que vous avez fait en vous appuyant sur le football?
Voilà. Une des fiertés du Montpellier Méditerranée Futsal, c'est d'avoir mis en place un projet qui est sportif, mais pas que le sport.
Voilà.
En fait, les outils éducatifs qu'on a pu développer, d'insertion sociale, toutes les actions qui ont été faites autour, qui a servi d'exemple à beaucoup de clubs sportifs à Montpellier. Et pour nous, et pas qu'à Montpellier d'ailleurs, à travers toute la France. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est de... En fait, on était dans la continuité de l'état d'esprit du fondateur Carlos Seriani, d'esprit futsal, c'est-à-dire on est issu d'un quartier pauvre, on sait que le football, c'est un outil. On avait créé le futsal parce qu'on était dedans, on avait créé les actions éducatives parce que ça allait de soi.
C'est quoi ces actions éducatives dont vous
parlez? Par exemple, on a mis en place, il y a une dizaine d'années, un travail d'accompagnement à la scolarité dans lequel... c'est pas le bon terme, accompagnement à la scolarité, mais on aide les enfants à ce qu'ils fassent leurs devoirs, pas que leurs devoirs, en fait, d'avoir des outils pour qu'ils puissent ne plus avoir besoin de nous pour faire leurs devoirs. Ça veut dire, nous, l'objectif, c'était, on prend 20, 30 enfants, on essaye d'avoir un adulte par enfant et de leur donner des outils nécessaires. Une fois qu'ils avaient ces outils-là, on en prenait d'autres. Et ainsi de suite, c'est ce qu'on faisait. On avait développé un partenariat avec Subdeco, on avait fait une expérimentation avec Subdeco dans laquelle on travaillait sur ces questions-là.
Ah oui, ça aussi, c'est inattendu. Parce que le monde de Subdeco, des étudiants Subdeco et les quartiers, ce n'est pas tout à fait la même chose.
Exactement. Nous, on a toujours fait ce travail-là, c'est-à-dire de la même manière qu'on a voulu nous mettre des barrières autour du quartier et qu'on reste dans nos quartiers, on a toujours fait en sorte que d'aller vers les autres et de faire venir les autres vers nous pour dire « Oh, en fait, on vit tous dans la même société, on doit évoluer ensemble, on doit se comprendre, on doit se connaître. » Donc Subdeco fait partie de ça. On a beaucoup échangé. D'ailleurs, ça a été beaucoup apprécié parce que ça s'est développé avec d'autres associations de taekwondo, de foot derrière, etc. Et donc, c'était ça l'objectif. Et aussi, l'autre objectif, c'est que des enfants du quartier du Petit Bar qui avaient accès à Subdeco, dans leurs locaux, dans leurs salles, ils faisaient leur devoir là-bas, que ça leur servait d'exemple, de dire eux aussi, ils ont la possibilité aussi de venir faire des études ici. Peut-être ça allait leur donner des idées ou pas, peu importe. Mais nous, l'objectif, c'était ça. Ensuite, derrière, on a
développé... Alors, on peut expliquer aux auditeurs qui ne connaîtraient pas que jusqu'à... Ça va changer, mais Subdeco était à côté,
à côté
de la Paillade. Bon, maintenant, ils déménagent du côté de l'autoroute.
Ils peuvent nous laisser les locaux.
Voilà, c'est cette proximité quand même qui a plus donné du sens, ou en tout cas de la facilité à ce genre d'action.
Quoi. Exactement, et c'est parce que aussi nos locaux ne pouvaient pas accueillir plus de 30 enfants. Et on avait pas mal, vraiment, on a eu pas beaucoup, beaucoup de monde qui ont répondu, des étudiants, des gens un peu partout qui venaient donner un coup de main. Beaucoup, pas mal de bénévoles, on avait une trentaine de bénévoles... vraiment confirmé, on va dire, c'est des personnes qui ont des outils nécessaires.
Enfin, il y a un accompagnement qui est
complet, ouais.
Pendant plusieurs années, j'imagine.
Et donc voilà, après on a développé des actions autour de... Comme on était dans un quartier qui était en rénovation urbaine, c'est-à-dire que pendant une dizaine d'années, il y a des enfants, ils ont grandi qu'avec les bruits de tractopelle. L'idée, c'était ça. Au départ, c'était de sortir les enfants pendant les vacances et la vacance d'été, sans subvention, sans rien, on faisait tout ça. Que ce soit l'accompagnement scolaire, que ce soit tout ça. On les sortait. Des fois, on se cotisait entre nous, 10 euros, 15 euros. On prenait des merguez, des côtelettes, des choses comme ça. On prenait 20, une vingtaine d'enfants. On allait à la rivière, par exemple. On allait à la plage. On faisait des petites sorties au fur et à mesure. Jusqu'à ce qu'il y ait un accompagnement de la Fondation Labbé Pierre qui nous a permis de structurer tout le travail éducatif et les sorties d'été, d'hiver, etc. Et là, on a pu apporter des sorties vraiment de qualité. Ensuite, on a fait un travail sur l'insertion. Énormément sur l'insertion.
Professionnelle,
oui, sur les recherches de stages, sur l'emploi directement. On avait l'année dernière, on avait mis en place un travail avec le Pôle emploi, avec la préfecture, avec le Cercle Mozart, etc., pour faire en sorte de mettre en connexion des jeunes avec des entreprises. Vraiment, on a été En fait, nous, on répondait, nous, notre particularité, c'est qu'on était, on répondait pas aux appels à projets, on répondait aux appels des habitants. Ça veut dire
alors,
qu'on regarde.
On va expliquer. Il y a des appels à projets qui sont lancés par les pouvoirs publics, hein, notamment services de l'État, communes, départements. Vous, c'était une autre logique de s'appuyer sur les besoins tels que les habitants les expriment, sur les attentes des habitants.
Exactement.
Mais encore fallait-il qu'ils les expriment d'une manière, j'allais dire, utilisable ou suffisamment large pour que vous puissiez prendre appui sur ces attentes. On comprend que c'est une manière de légitimer votre action, de l'enraciner. Mais
En fait, nous, on était bénévoles. La plupart, on était bénévoles. On n'était pas là pour faire du cinéma, on n'était pas là pour montrer qu'on était actifs, etc. On faisait parce qu'il fallait répondre à une demande qui était vraiment... Et à un moment donné, on se rend compte que les actions que nous menions, il y a des associations pour lesquelles ils étaient financés et nous, on ne l'était pas.
Ah oui, problème.
Je vais vous donner deux exemples précis, mais vraiment parlant. Et tout le monde peut vérifier. D'ailleurs, j'ai même évoqué ça avec le conseiller de Macron. Je n'ai jamais eu de réponse depuis. On a mis en place tous les étés. C'est un projet qu'on a pensé dans le quartier parce qu'il y avait un besoin. C'est-à-dire qu'on avait beaucoup d'enfants qui avaient beaucoup de retard à l'école primaire. En collaboration avec les parents et les écoles du Petit Bar, on avait mis en place... pendant les étés, ce qu'ils ont appelé aujourd'hui, ce qui est devenu un dispositif, qui sont les vacances apprenantes. Il y a des vidéos, il y a des photos, il y a des articles de presse qui en parlent, on en parlait, dans laquelle on mettait en place un travail éducatif tout l'été, mais on accompagnait avec des sorties ludiques, etc., qui leur permettaient aux enfants de travailler tout en s'amusant. On a fait ça pendant plusieurs étés sans aucun financement de personne. À chaque fois qu'on le faisait, c'était on arrivait toujours à trouver un artisan qui pouvait les mettre... Voilà, on arrivait à trouver un peu d'argent par des artisans et on arrivait à mettre en place ça. Des années passent, le Covid arrive. Le MMF était très, très impliqué pendant le Covid, même si on n'a pas voulu communiquer là-dessus. Et donc, l'été arrive, on sort un dispositif qui s'appelle les vacances apprenantes, dans lequel il y a une enveloppe de 200 millions d'euros à travers toute la France. On a mis en place le projet malgré tout, grâce à la Fondation Abbé Pierre, mais au niveau de financement public qu'on a demandé, on nous a refusé. Pourtant, et pourtant, regardez.
Mais pour quelle raison ?
Je ne sais pas, ça ne correspond pas ou je ne sais plus. Donc, moi, aujourd'hui, je le dis dans la radio, je suis prêt à mettre au défi les institutions pour montrer le travail que nous, on a fait par rapport à tout ce qui a été financé par ce dispositif et de comparer, de faire un vrai comparatif sur ce que s'appelle réellement les vacances apprenantes, dans lequel il y avait des psychologues, il y avait des acteurs de santé, il y avait vraiment des enseignants spécialisés dans lesquels on a fait un vrai travail qui a apporté ses fruits. Donc, précurseurs de ça. Et derrière...
Oui, parce que c'est un paradoxe. En gros, vous avez montré comment ces méthodes, ces manières de faire...
fonctionnent.
...correspondaient à des besoins et avaient des résultats. Et malgré ce, vous n'êtes pas rentré dans les dispositifs officiels.
Et le deuxième exemple. Brièvement, parce que quand je vous parle de ça, ça vous permet de comprendre qu'on parle repenser le monde de l'associatif, qu'on vous parle du problème politique qu'il y a dans les quartiers, qu'on vous parle de la politique de la ville. En fait, ça en fait partie, c'est des exemples précis. C'est comme le dispositif aller vers une certaine jeunesse qui est un peu déconnectée de la société. C'est des années qu'on le dit, des années qu'on le fait, des années qu'on le met en place. Ça a montré ses fruits. La caravane, c'est issu aussi de ce concept-là, c'est d'aller vers ce public-là, etc. Je vais faire bref. Eh bien, derrière, il y a eu un dispositif dans lequel nous, on a défendu ça auprès du conseiller, du ministre, de tout le monde. Et après, 3 mois après, c'est devenu un dispositif dans lequel on a attribué le budget à PS34.
D'accord.
Rentrer dans le...
Alors, on arrive presque au bout de l'émission, donc...
Oh, ça va vite. Chaque point est un sujet.
Alors, ceci dit, quelle idée on peut se faire de la situation et est-ce qu'on peut la regarder, je dirais, avec réalisme et peut-être avec un relatif optimisme? Quelles sont les initiatives, les énergies dans les quartiers sur lesquelles vous appuyez qui peuvent donner à penser que, sous réserve, je dirais, de l'environnement économique, politique, administratif, Il y a de l'air, quoi. Il y a de l'horizon qui n'est pas bouché, quoi. Est-ce que vous le pensez, ça?
Ah, je le pense, bien sûr. Pour pas passer pour les pleurnicheurs de service que tout va mal, etc., il y a des choses qui vont bien. Actuellement, pour nous, je veux dire, depuis l'arrivée du nouveau préfet qui est déjà venu sur le quartier, qui a visité, etc., il y a eu un travail qui a été mis en place. Donc, il y a une facilité à ce niveau-là avec le nouveau maire, même s'il y a eu des petites complications pendant... quelques années, il y a un dialogue qui s'est installé dans lequel il est à l'écoute de besoins, on va dire, du club, de l'intérêt du club, parce que nous, on voulait l'arrêter, le club. C'est par sa volonté qu'on a commencé à continuer parce que voilà, il y avait l'idée de dire on a, le MMF est important à Montpellier, qu'il fallait que ça continue.
MMF à Montpellier, le dernier futsal.
Donc, et je suis pas là non plus pour les... Enfin bref. Donc quand ça va, il faut le dire. Quand ça va pas, il faut le dire. Donc bien sûr qu'il y a des choses qui vont. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont volontaires. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont envie de faire. Quand on voit la rénovation qui s'opère sur le quartier de la Paillade avec autant de millions d'euros qu'il y a, bien sûr que c'est une volonté politique qu'il faut saluer. Maintenant, c'est là où ça se pose et c'est là que les élus doivent être attentifs, que ce soit le maire actuel ou les élus. L'argent il doit servir à tirer ce quartier vers le haut, il doit servir à tirer ses habitants vers le haut. C'est là que le clash ou le conflit peut arriver par la suite, ou la réconciliation, si on peut appeler ça comme ça, entre la politique et le quartier de la Paillade, parce qu'on parle du quartier de la Paillade, parce qu'il y a aussi une rénovation aussi sur les Cévennes, c'est de profiter de ces crédits-là de l'ANRU. L'ANRU, c'est une agence nationale. De profiter de ces crédits-là pour faire en sorte de tirer ces quartiers, que ce soit économiquement, que ce soit socialement, que ce soit au niveau de logement, etc. Donc, bien sûr qu'il y a des choses qui arrivent et qu'il faut saisir.
On peut dire simplement, les opérations de renouvellement urbain là, dont il est question, une très importante à la Paillade et une autre Cévennes, c'est on rénove le bâti, on rénove l'espace public et on accroît la présence des équipements publics. Je résume. Et après, il y a la vie des gens.
Mais c'est là où en fait, ça en fait partie. Ça veut dire que sur le quartier du Petit Bar, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Il y a des choses qui ont fonctionné, beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Est-ce que les élus actuels vont avoir l'intelligence ou la volonté des élus à la rénovation urbaine, que ce soit ceux de la métropole ou de la ville, ou la CERM qui pilote ce projet de rénovation urbaine, est-ce qu'ils y mettront la volonté pour réellement que ça profite des habitants socialement? Quand je parlais de socialement, c'est ça, c'est les habitants. Ça veut dire que les habitants soient au cœur du projet, qu'il y ait une vraie concertation avec les habitants. Une vraie concertation, c'est pas... Chaque habitant va avoir son avis sur à quel moment où il faut construire un bâtiment ou pas. C'est comment collectivement on peut se mettre autour de la table et que eh ben cet argent-là, ce crédit-là, soit, pourquoi pas l'occasion de sortir la Paillade des QPV et de le rentrer dans le droit commun. Ça peut être un sacré défi pour tout le monde, pour les élus. Et je pense que les élus, ils ont tout à y gagner. Le préfet aussi doit avoir une implication dans cette rénovation urbaine, je pense, parce que l'État le met de l'argent. Et à mon avis, si tout le monde relève le défi de ça, je pense que dans l'histoire, ça restera gravé dans l'histoire. Ça peut servir d'exemple.
On l'espère. Alors, brièvement, on va quand même l'aborder parce que je pensais que c'était important. Bon, on parle beaucoup de l'insécurité hein, dans ces quartiers. Vous parlez d'insécurité sociale. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Comment vous l'expliquez, vous l'illustrez, insécurité sociale?
Vous savez, moi, j'ai fait partie de l'association Justice pour le Petit Bar. Ça fait des années qu'on a alerté sur ce problème-là. Vous savez, quand vous vivez dans un logement, souvent de familles isolées, avec des marchands de sommeil qui sont sans foi ni loi, qui ne rénovent pas leurs logements, qui sont dans des logements insalubres, en suroccupation, les logements sociaux, pour eux, ils ont beaucoup de difficultés à y avoir accès, parce que c'est un gros problème, il y a énormément de demandes et pas assez d'offres. Pas beaucoup de moyens pour vivre. Quand une femme est le RSA ou elle fait le ménage et les enfants voient ça au quotidien et dans les conditions dans lesquelles ils vivent et ils ne peuvent pas rester à la maison quand ils vivent en suroccupation dans un T2 à 4 ou 5 ou voire plus parfois dans un T3, je pense que pour moi, c'est ce que j'appelle l'insécurité sociale. Ça veut dire qu'ils ne savent pas s'ils vont pouvoir manger à la fin du mois comme il faut, convenablement. Ils ne savent pas si eux, ils peuvent faire une sortie. Ils ne savent pas si eux, ils peuvent changer leur paire de baskets par rapport aux copains. La maman ne sait pas à la fin du mois est-ce qu'elle pourra... Ne serait-ce que les sortir au centre-ville à la place de la Comédie, il y a des manèges et les enfants voient ça, elles ne peuvent pas leur payer. Donc toutes ces petites choses, je ne parle même pas des salaires confortables dans lesquels elles peuvent vivre. Et ça, cette violence qu'ils peuvent vivre au quotidien, parce que c'est une violence, vivre dans un logement insalubre et avoir des marchands de sommeil qui sévitent, c'est vivre une violence. Cette violence-là, à un moment donné, il ne faut pas s'étonner.
Qu'elle s'exprime d'une
autre manière, surtout quand les enfants ils sont un peu plus grands. Ils le voient, ça, je vous assure que ça leur marque, ça les marque.
Bien sûr. Et... Alors, on arrive au bout de notre échange. Une dernière question. Est-ce qu'il y a des formes d'aide que les auditrices et auditeurs de Divergence pourraient vous apporter? En tout cas, comment ils peuvent se manifester s'ils ont une capacité, je ne sais pas quoi, accompagner un groupe d'enfants ou toute autre tâche, même si vous avez dit quelle était l'importance des bénévoles qui, depuis des années, sont à vos côtés, là, que pouvez-vous nous dire pour clore cette émission.
Le problème, c'est que le bénévolat s'essouffle énormément. Et oui, il y a toujours besoin de bénévoles. Nous, les actions qu'on met en place, c'est au niveau de la travail éducatif. Donc, on essaie de donner des outils. Ceux qui ont des compétences à ce niveau-là, donner des outils à des enfants pour qu'ils aient plus besoin de nous et faire après, faire leurs devoirs et leur travail tout seul. S'il y a des personnes, ben, on est preneurs. On est en train de mettre en place des ateliers d'écriture pour écrire autre chose que du rap, des théâtres, des scénarios, des choses comme ça. Donc, avoir la facilité d'écrire. Pourquoi on a mis ce travail en place? Parce qu'il y a deux choses qui sont un peu, qui sont un peu complexes dans le quartier, c'est l'éloquence et l'écriture. Donc, on essaye de mettre ça en place, de travail d'éloquence, d'écriture. Donc, s'il y a des personnes qui sont motivées ou sur la question culturelle, la lecture, etc., ben, vous pouvez nous écrire à Académie Futsal, A-C-A-D-E-M-I-E, Futsal, F-U-T-S-A-L, @gmail.com.
Voilà, merci beaucoup et bon vent alors.
Merci à vous pour l'invitation encore une fois de plus. Et bonne continuation à vous.
Et à la semaine prochaine, chers auditeurs, pour racontez-nous votre Montpellier. Bonne journée. Vous êtes né dans le quartier Saint-Roch.
À chaque fois qu'on rencontre un Montpelliérain, qui que ce soit, tout le monde a une espèce de nostalgie de ce quartier.
Et j'y ai donc vécu les 10 premières années de ma vie.
C'était Racontez-nous votre Montpellier.
Vous changez de lieu dans Montpellier, vous changez d'univers.
Une émission proposée par Alain Doudiès sur Divergence FM.
Je vous signale tout de suite, mesdames et messieurs, que je vais parler pour ne rien dire.